بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. شفاعة الإسلام، الحمد لله. Nous commençons ce soir une nouvelle sourate, le tafsir du sourate At-Tariq. Et ce sourate commence par un qasam. Allah Azza wa Jal jure par le ciel, was-sama'i wa-tariq. Allah fait qasam par deux choses. As-sama, as-sama c'est le ciel. Et At-Tariq en français, c'est-à-dire dans les versions qu'on a du Coran traduit, ils traduisent At-Tariq par l'astre nocturne. Par l'astre nocturne, ça veut dire c'est en rapport avec soit une étoile particulière ou alors les étoiles brillantes d'une manière générale. Les mufassirin et surtout les ulama al-aqida rahimahumullah précisent que faire qasam par des créatures c'est du shirk, sauf quand c'est Allah qui le fait. Et quand Allah azza wa jal jure par une créature, c'est en même temps pour montrer l'importance de cette créature. On verra, il y a beaucoup de versets dans lesquels, surtout dans les petites sourates, Allah Azza wa Jal fait le qasam par des créatures. Et c'est pour montrer l'importance de ces makhlouqas, de ces créatures dans l'ensemble de la création. Ça c'est concernant Allah Azza wa Jal, c'est lui qui le fait. Maintenant pour un musulman, pour un être humain, faire qasam par autre qu'Allah Azza wa Jal, c'est du polythéisme, c'est du shirk. C'est-à-dire que je n'ai pas le droit de jurer par quelque chose d'autre d'Allah. D'accord ? Comme on entend les expressions, hein, je jure sur la tête de ma mère, je jure sur telle chose, ça c'est des choses qui sont culturelles, ça. Hein, c'est des gens qui ont l'habitude d'utiliser ces expressions, mais faire le qasam pour un musulman, cela est toléré que s'il fait qasam par Allah. Je jure par Allah. Autrement, faire qasam par n'importe quel makhloukat, c'est du shirk, c'est considéré comme du shirk. Mais lorsqu'Allah Ta'ala le fait, hein, c'est pour montrer l'importance de ces créatures. Et Allah Azza wa Jal fait qasam là par le ciel et par l'astre nocturne, par soit une étoile, comme on dit, soit des étoiles. Wa ma adraka ma tariq. Et Allah Azza wa Jal dit ensuite, et qui te dira ce qu'est l'astre nocturne? Alors, le tariq, hein, c'est le mot compliqué hein, du début du surat, est expliqué dans le troisième verset. Lorsqu'Allah Ta'ala il reprend, Allah Ta'ala dit par le ciel et par l'astre nocturne, et qui te dira ce qu'est l'astre nocturne? Et la réponse vient dans le troisième verset. An-najmu thaqib. C'est l'étoile vivement brillante. Alors avant de parler de l'étoile, on parlera du ciel. Et la notion de ciel chez les savants, pas chez les savants, chez les scientifiques, c'est quelque chose d'inconnu pour l'instant. Quand on parle des scientifiques, hein, on parle des scientifiques de la notion du ciel, pour eux c'est quelque chose qui est abstrait. Le bleu du ciel, selon eux, c'est le reflet de la mer ou je ne sais pas quoi, mais les scientifiques ne sont pas encore parvenus hein, à cette étape dans la découverte de ce qui nous entoure. Ils ne sont pas encore parvenus à comprendre qu'il y a véritablement un ciel. Maintenant, n'en parlons plus quand Allah Azza wa Jal explique qu'il a créé 7 cieux. Là, c'est quelque chose qui n'est pas concevable pour un homme de science, qui n'a pas la science religieuse, un homme scientifique. La notion, l'existence de 7 cieux, c'est quelque chose de totalement farfelu pour un scientifique. Et nous savons, avec l'ilm al-yaqin, avec précision, qu'Allah Azza wa Jal a créé les cieux, et ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose de hissi, de concret, de réel. D'ailleurs, lorsque notre prophète, alayhi salatu wassalam, est monté pour le voyage nocturne, à chaque ciel, il s'arrêtait, il était sur le buraq, à chaque ciel, il s'arrêtait avec l'ange Jibril alayhi salam, et il frappait, c'est pas Jibril alayhi salam, frappait et demandait l'autorisation pour accéder au premier ciel. Et devant chaque ciel, il y a un gardien. Pour chaque ciel, il y a un gardien. Et dans chaque ciel, il y a des créatures d'Allah Azza wa Jal. Dans chaque ciel, il y a des créatures d'Allah Azza wa Jal, donc essentiellement des malaïkas. Donc, le ciel, ce n'est pas qu'une illusion optique, le bleu du ciel ou le gris du ciel, c'est par rapport au temps, beau temps, mauvais temps. Non, c'est quelque chose de réel. Maintenant, comprenez bien, quand, subhanallah, quand on regarde un peu hein, l'astronomie, on regarde comment la planète Terre, c'est quelque chose de perdu. Souvent, on dit l'araignée, c'est un petit bout de caillou dans l'océan, dans le monde. Mais la planète Terre aussi, c'est un petit bout de caillou dans l'univers. Et quand on se rend compte que d'année en année, hein, ils font de plus en plus de découvertes que hein, notre système solaire n'est pas le seul, il y a d'autres soleils, il y a d'autres... Comment on appelle ça? Il y a d'autres galaxies, on appelle ça une galaxie, il y a d'autres voies lactées, je ne sais quoi. On ne finit plus d'en découvrir. Subhanallah, on se rend compte que vraiment la planète Terre, c'est comme un caillou dans un parc. Subhanallah, c'est rien du tout. Et nous, Allahu Akbar, qu'est-ce qu'on est par rapport à ça? Et donc, quand on voit le nombre de planètes qui existent, et que jusqu'à maintenant, l'homme n'est parvenu uniquement qu'à aller sur la Lune, s'ils ont été vraiment, ce n'est pas un film hollywoodien, Allahu A'lam, on n'a pas de preuve, hein, de nos jours, il y a tellement de choses qui se font avec des effets spéciaux, c'est-à-dire qu'au-delà de la Lune, aucune créature n'a pu voyager. Donc maintenant, ce scientifique, avec toute sa fierté, son orgueil, il ose prétendre qu'il n'y a pas de ciel, la notion de ciel n'existe pas, alors que nous avons la certitude qu'Allah Azza wa Jal a créé ces cieux et la création des cieux et de la terre, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que la création de l'être humain. Regardez, subhanallah, combien d'années d'études il faut pour devenir chirurgien. Et même quand une personne devient chirurgien, la personne a la possibilité de se spécialiser, chirurgie de la main, chirurgie des pieds, chirurgie des yeux, des différentes parties du corps, subhanallah. Et malgré ça, on ne trouvera jamais un chirurgien qui vous dira que je maîtrise avec perfection, par exemple, une partie du corps, les yeux. Non, il y aura toujours à découvrir, à apprendre d'autres méthodes, etc. C'est-à-dire que la création, subhanallah, de l'être humain, on l'avait déjà vu dans d'autres ayats du Coran, dans d'autres sourates, c'est quelque chose d'extrêmement complexe. C'est une machine d'une complexité, mais d'une perfection ajib, extraordinaire. Maintenant, Allah Azza wa Jalla du Coran, la khalq al-samawati wal-ard akbar min khalq al-nas. La création des cieux et de la terre, c'est encore plus complexe que la création des êtres humains. Lorsqu'Allah Ta'ala, il parle, il explique la création des cieux, qu'Allah a créé ces cieux et que ces cieux tiennent « bireyn et amad » sans qu'il n'y ait de support ou de soutien. Cela dépasse toutes les lois physiques, métaphysiques, ce qu'on veut. Nous connaissons la notion de pesanteur. Mais quand on parle du ciel, ça ne rentre plus dans les mêmes lois physiques là. Parce qu'on sort du système solaire, de la galaxie, de je ne sais quoi. C'est un niveau qu'aucun être humain ne peut atteindre. Aucune créature ne peut atteindre. D'accord? Aucun être humain ne peut atteindre. Subhanallah. Et Allah Ta'ala dit que ces cieux-là tiennent sans qu'il y ait de support. Nous ne savons pas, nous ne pourrons peut-être jamais découvrir est-ce que vraiment c'est comme ci ou comme ça, mais nous avons la conviction, le yaqin qu'Allah Ta'ala a créé ces cieux et que ces cieux sont suspendus comme Allah seul le sait et qu'Allah Ta'ala en a créé sept. Vous savez quand est-ce qu'un être humain saura vraiment qu'il y a sept cieux? À nous, attends ça. Quand Malik al-Maud reprend l'âme d'une personne, quand c'est un mu'min, un musulman pieux, à chaque ciel, l'âme, lorsqu'il monte, lorsque l'âme quitte le corps d'une personne, dans le kafan de linceul, l'âme est accompagnée par un groupe d'anges. Et lorsque l'âme arrive aux cieux, à chaque ciel, si c'était un mu'min, un homme pieux, les malaïkas de ces cieux-là transmettent le salam à ce ruh qui est pur et qui dégage un parfum agréable par rapport à son iman. C'est uniquement là que l'être humain se rendra vraiment compte qu'Allah Azza wa Jalla a créé sept cieux. Mais le kafir ne le saura pas. Parce que lorsque l'âme monte, les anges ne donnent pas l'accord. Ils ne donnent pas l'autorisation parce que c'est une âme qui pue. Par cause du kouf et du shirk, c'est une âme qui ne peut pas accéder à un endroit où il n'y a que des malaïkas, où il n'y a que des rahmas, où il n'y a que de la lumière. Donc ça c'était pour parler du ciel. Maintenant, ce fameux wa tariq, lorsqu'Allah Ta'ala décrit ce tariq, explique que c'est al-najmu thaqib, que c'est l'étoile vivement brillante. Alors, les ulama, rahimahumullah, ils expliquent qu'Allah Azza wa Jal a créé les cieux pour trois maqsad. Il y a trois objectifs de la création des cieux. Premièrement, wa'alamat wa bin najmi hum yahtadun. C'est pour que les gens se repèrent par le biais des étoiles, pour que les gens arrivent à se repérer, tout simplement.
J'allais dire que pour les marins, c'est européen, mais ce n'est pas que pour les marins. Même chez les Arabes, à l'époque, quand on voulait voyager d'un pays à l'autre, d'une contrée à une autre contrée, lorsqu'on empruntait le désert, on se repérait par rapport aux étoiles. Et les marins aussi, bien sûr, lorsqu'ils allaient en mer. Mais ça, c'est une science qui est plus ou moins perdue. Il y a peu de gens qui arrivent encore à se repérer avec les étoiles. Mais Allah Azza wa Jalla a créé les cieux, et une des sagesses des cieux, c'est quoi? Une des sagesses des étoiles, c'est comme un point de repère pour trouver son chemin. Parce que les étoiles ne changent pas de place. Ce n'est pas que telle étoile est là, tel endroit, demain il est là. Ce n'est pas comme, la lune qui tourne. Deuxième hikma, sagesse pour laquelle Allah Azza wa Jalla a créé les cieux, c'est « Wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha ». Allah Ta'ala a créé les cieux, subhanallah, les étoiles pour illuminer, pour remplir de beauté le ciel. Lorsque vous regardez une nuit étoilée, subhanallah, vous ne pouvez que dire subhanallah, justement. Vous ne pouvez que voir la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Et je vous invite un jour à passer un peu de temps avec vos enfants et à observer le ciel, les étoiles le soir. Quand le ciel est dégagé, il faudrait que nos enfants arrêtent d'avoir la tête baissée. La tête baissée sur les PS, comment on appelle ça? Avant c'était les Game Boy et tout, maintenant on est un peu dépassé, hein? Les PlayStation, les trucs comme ça, les Wii, les non, les je ne sais quoi, c'est une perte de temps, mais royale. D'accord? Il faudrait qu'au lieu de baisser la tête, de regarder des choses qui sont virtuelles, qu'ils apprennent à lever la tête. À lever la tête et d'admirer la création d'Allah. Lever la tête et admirer comment Allah Ta'ala crée le ciel qu'on voit. Allah Ta'ala crée les étoiles, a créé la lune, subhanallah. Qu'on apprend, qu'on inculque à nos enfants le principe de Tawhid Rububiyya. Le Tawhid Rububiyya, c'est quoi? C'est reconnaître la grandeur d'Allah par ce qu'il a créé, par la création. Vous voyez telle chose et vous vous dites que subhanallah, c'est Allah qui l'a créé, et avec une telle perfection, ce n'est qu'un Dieu parfait, omniscient, omnipotent, qui a pu créer quelque chose d'une telle beauté, avec une telle perfection. Il faut apprendre à nos enfants à lever la tête, à regarder autre chose que leurs écrans plats ou que leur GSM, le iPhone, je ne sais quoi. Et la troisième raison pour laquelle Allah Azza wa Jal a créé les étoiles, c'est « وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينَ » pour chasser les shayatines. Et vous savez que les shayatines ont toujours eu pour habitude de monter jusqu'au ciel et d'écouter les nouvelles que les malaïkas se transmettent entre eux. Lorsqu'Allah Azza wa Jal prend une décision, Allah Azza wa Jal annonce la décision aux malaïkas. Et les anges se transmettent la nouvelle de ciel en ciel jusqu'au premier ciel. Et lorsqu'il y a des shayatines qui montent au niveau du ciel et qui essaient d'écouter, leur objectif c'est quoi? C'est de rapporter ces nouvelles aux devins, aux sorciers, aux kahana, comme on dit. Les gens qui annoncent la bonne aventure aux gens, qui lisent l'avenir, qui prédisent l'avenir. Et lorsque les malaïka voient des shayatines qui s'approchent du ciel pour écouter ces informations, ils ont l'ordre de la part d'Allah de les chasser, et c'est ce qu'on voit, par des boules de feu, et certains interprètent ça comme des étoiles filantes. Ça, wallahu a'lam. Je ne sais pas s'il y a un hadith qui le prouve, mais on a l'habitude d'entendre que, pour ceux qui n'ont pas iman, pour les étoiles filantes, pour faire un vœu et tout, non, pour nous c'est bien au contraire. On pense que c'est ces boules de feu que les anges envoient contre des shayatines qui essaient d'avoir des informations au niveau du ciel. Mais ça, il n'y a pas de hadith qui prouve que c'est réellement ça. Mais ce qui est sûr, c'est que les anges chassent les shayatines par le biais de ces choses-là. Maintenant, une petite question, une parenthèse qu'on peut se poser, c'est quand un shaytan écoute une nouvelle du ciel et qu'il rapporte cette nouvelle à un sorcier. Sorcier qui, lorsqu'il va, ou un marabout comme on veut dire, qui va consulter des gens, il va dire qu'attention, il va t'arriver telle chose, prends telle précaution, je te donne tel talisman, pour qu'il ne t'arrive rien, pour que tel jour, tu devrais normalement avoir un accident, ça te protégera, etc. Et ça, c'est un fitna. Il y a beaucoup de gens qui croient et qui ont la conviction que ces gens-là disent la vérité. C'est un fitna. C'est une épreuve pour les gens. Alors, on peut se poser la question, si, sachant que le prophète a dit que « Man ata kahinan ou arrafan fa saddaqahu bima yaqul, bima qal, فقد كفر بما أنزل على محمد أو كما قال عيسى celui qui aura un devin ou un marabout, un sorcier, et qui croit aux paroles de cette personne, ce mu'min a fait le kufr. Khalas, il a fait kufr sur la révélation de la révélation qui a été faite sur le prophète alayhi salatu wassalam. Tandis que celui qui va juste écouter le sorcier, le devin, 40 jours de ibadat, de salat, ne sont pas acceptés. Maintenant, celui qui va et qui écoute et qui croit cette personne a fait le kufr. Sachant que c'est une tentation quand même qui est accessible. Quand une personne veut savoir est-ce que retrouver l'être aimé ou je ne sais quoi, que la personne est tentée d'aller voir ces gens. On peut se demander pourquoi est-ce qu'Allah Ta'ala autorise ces chayatines à monter jusqu'au ciel, à avoir ces informations qui seront source de shirk et de kufr pour ceux qui iront les écouter. Ben, c'est tout simplement, comme on a dit tout à l'heure, c'est une fitna, c'est une épreuve pour les gens. Sachant qu'il y a parfois une part de vérité dans ce que ces gens prédisent, parce que c'est des infos réelles qui viennent du ciel. Mais lorsque ces chayatines apportent des nouvelles, ces chayatines rajoutent mille et un mensonges pour donner quelque chose de plus comestible, on pourrait dire, quelque chose de plus acceptable pour le sorcier comme pour le client. Un Mohamed, voilà, je dis la grève, il n'y a pas de l'eau là. Et le prophète alayhi salatu wassalam, une fois, il avait rencontré une personne à son époque qui prétendait être prophète. Et cette personne, en fait, il recevait des informations avec les chayatines. Et cet homme-là dit au prophète, tu es Nabi, je suis Nabi comme toi. Nous sommes tous les deux prophètes, donc à toi la moitié des richesses et à moi l'autre moitié. Il croyait que ça se passait comme ça. Quand on est prophète, bon, on va gouverner, on va avoir de l'argent. Il a dit que pour te prouver que je suis prophète, je peux te dire qu'est-ce qu'Allah t'a révélé hier soir. Et le prophète avait reçu en révélation une surah de la veille. Et personne ne savait encore apparemment. Il a dit que pour te prouver que je suis réellement un prophète, je peux te dire qu'est-ce qu'Allah t'a révélé hier soir. Le prophète m'a dit, ben vas-y, en ce sens, qu'est-ce qu'Allah m'a révélé. Et tu as reçu un surah qui s'appelle surah ad-dukh. Surah ad-dukh. Ali, est-ce qu'il y a un surah ad-dukh dans le Coran? Nous avons le même Coran, oui ou non? Ad-dukhan, il lui manquait quoi? Le alif nun. Cette personne avait reçu l'information de la pandémie des chayatines, mais avant que le shaytan ne puisse obtenir l'info en intégralité, en direct, comme avec TF1, d'accord, ce shaytan était chassé. Ce qui fait qu'il n'a pas entendu l'autre moitié de l'information. Il a entendu juste la première syllabe ad-dukh et pas le han. D'accord? C'est une petite anecdote. Quoi qu'on comprenne, les akhbar. Alhamdulillah. Quoi qu'on comprenne que il y a une part de vérité dans ce que les sorciers transmettent comme information. Pourquoi? Parce qu'ils ont des informations qui viennent des chayatines qui eux-mêmes vont jusqu'au ciel pour avoir des nouvelles. Et Allah Ta'ala accepte, Allah Ta'ala laisse ces chayatines s'approcher du ciel, alors qu'Allah Ta'ala aurait pu les en empêcher pour éprouver les gens. C'est une fitna, comme Shaytan est une fitna, comme Dajjal est une fitna, comme Ya'juj et Ma'juj est une fitna. Donc, Allah Ta'ala a créé les étoiles pour ces trois hikmah, ces trois sagesses, zinatun nissama, beauté pour le ciel, repère pour les voyageurs et pour chasser les shayatin. Maintenant, vous savez que plus une étoile est brillante, plus cette étoile est éloignée. C'est ce que j'ai appris à l'école. C'est-à-dire, quand on voit une étoile qui est très brillante, ça veut dire qu'elle est extrêmement éloignée. Il y a des étoiles qui sont plus brillantes que d'autres. Oui ou non? Si on dit peut-être, ça veut dire qu'on n'observe pas. Il faut regarder, il faut observer le ciel. D'accord? Plus c'est brillant, plus c'est éloigné. Maintenant, à nous de, subhanallah, de faire tadabbur, de méditer sur la grandeur de la création d'Allah, on peut déjà méditer sur ce qu'on voit. Maintenant, sur les choses qui sont éloignées, cela nous permet de comprendre si'atu khalqillah. Comment la création d'Allah est gigantesque, elle est étendue. On n'est pas seul, il n'y a pas que nous qui ont été créés. Allah Ta'ala a créé une quantité de makhlouqat tellement, tellement éloignée et que c'est Allah qui gère toutes ces makhlouqat. Il n'y a pas une étoile dans le ciel qui n'est pas gérée par Allah. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez que les scientifiques disent qu'il y a des étoiles qui explosent, il y en a qui naissent et tout. Mais tout ça, c'est dans les mains d'Allah. Tout ça, c'est la décision d'Allah Azza wa Jal. Au moment où on parle, il y a tellement de choses qui se passent dans l'univers, subhanallah. Et tout ça, c'est que Allah Azza wa Jal qui est au courant. Cela doit éveiller en nous Subhanallah, une admiration pour notre Créateur, on doit se dire que vraiment, Allah Azza wa Jal, c'est le plus grand, c'est le plus puissant, il est vraiment omniscient, il est vraiment omnipotent. Maintenant, on passe à un verset extrêmement important, enrichissant. In kullu nafsin lamma alayha hafir. In kullu nafsin lamma alayha hafir. C'est ma traduction. Parce qu'il ne faut pas dire n'importe quoi dans la traduction du Coran, si on le retrouve. Il n'est pas d'âme qui n'ait sur elle un gardien. In kullu nafsin lamma alayha hafir. On va aller un petit peu plus vite. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous informe que pour chaque être humain, Allah Azza wa Jal a mis des gardiens. Et ces gardiens, il y a différentes catégories de gardiens pour les êtres humains. Mais dans ce verset qui est marsous, in kullu nafsin lamma alayha hafir, on parle des malaïkas, des anges qui sont muwakkal, qui ont été désignés par Allah Azza wa Jal pour inscrire les actions de chaque être humain. Les actions qui sont bonnes, tout comme les actions qui sont mauvaises. Comme on l'a dit au Coran, « وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَا لَحَافِظِينَ » Et ces anges sont « كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ » Et ils savent exactement ce qu'on fait, ils savent exactement ce qu'on a même l'intention de faire comme action. Et ces anges-là, comme tous les malaïkas qui ont été créés par Allah, « لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ » Ils ne désobéissent jamais à Allah et ils exécutent tout ce qu'Allah Ta'ala leur a demandé. Et leur mission, c'est quoi? C'est d'inscrire la moindre parole, le moindre fait et geste de cette personne. Et les ulama, rahimahumullah, ils ont déjà donné beaucoup, mais c'est un rappel qui est bénéfique pour le croyant. Imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, dans sa maladie, hein, c'était lui ou quelqu'un d'autre qui soupirait, il disait que même ce soupir, quand on soupire, quand on est malade, ça aussi, c'était inscrit par les anges. C'est-à-dire que n'importe quel son qui sort de la bouche d'un être humain est inscrit par les anges. Et après le jour de Qiyama, ils distingueront entre les paroles bénéfiques, les paroles qui sont mauvaises et les paroles qui sont neutres, qui n'ont aucun sens ou aucun effet. Ça veut dire qu'il n'y a pas une parole qu'un homme prononce, il n'y a pas un geste qui est fait. Et dans certaines choses, il dit que lorsqu'un être humain fait un pas, il était inscrit, est-ce que c'était un pas pour accomplir une bonne action ou un pas pour accomplir une mauvaise action. Ça, c'est la création d'Allah qui est organisée de la sorte pour répertorier les actions de l'être humain. Maintenant, on peut se dire qu'Allah Ta'ala, il connaît tout, il sait tout. Allah Ta'ala, il connaît déjà, il n'a pas besoin de ces makhlouqat qui vont écrire les actions. Parce que lorsque les anges écrivent, hein, c'est, on ne dirait pas que c'est indélébile, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent comme support, mais c'est quelque chose qui ne s'efface jamais. La seule chose qui peut effacer une chose inscrite dans le livre de compte, c'est quoi? C'est At-tawbatu al-istighfar. Le tawbah, le repentir sincère envers Allah Azza wa Jal. Si vous avez écouté les deux lectures du Coran de notre imam ce soir, les deux rakats parlaient du tawbah, de l'importance de retourner vers Allah, wa la taqnatu min rahmatillah, de ne jamais désespérer de la clémence d'Allah, car inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Car Allah Ta'ala est capable de pardonner la totalité des péchés. Donc la seule chose qui efface une écriture de ces anges, c'est le tawba et istighfar par ordre d'Allah Azza wa Jal. Ou alors, dans certains hadiths, il est dit, hadith authentique, dans lequel il dit que lorsqu'un musulman accomplit un péché, Allah Ta'ala ordonne aux anges de patienter quelques instants pour voir si ce musulman prend conscience de son erreur et qu'il demande pardon à Allah Azza wa Jal. Si ce musulman prend conscience qu'il a fait un péché et qu'il demande pardon à Allah Azza wa Jal, dans ce cas, les anges n'écrivent pas le péché. Mais si cette personne reste dans l'insouciance de le rafla, si cet ange, cette personne, ce musulman reste dans l'insouciance de le rafla, là, cet ange-là, il va écrire réellement ce péché. Et maintenant, si la personne va demander pardon à Allah, Inch'Allah, Allah Ta'ala peut pardonner ce péché. Et puis vous savez qu'il y a des actions, on entre dans d'autres détails qui ne concernent pas le verset, il y a des actions qui, par leur nature, hein, ont pour avantage d'expier les fautes. Comme le fait d'enchaîner les salats avec les tahara, les wuzu. Quand quelqu'un il vient à la masjid, il fait sa salat, il fait son wuzu, etc. comme il le faut, ben les péchés qui ont été accomplis entre les deux prières sont pardonnés par Allah Azza wa Jal. Vous connaissez l'exemple? Hein, très connu le hadith qu'une personne qui habite près d'un fleuve et qui s'y baigne 5 fois par jour, pensez-vous qu'à la fin de la journée, cet homme trouvera sur lui quelques traces de souillure ou de saleté? Jamais, après avoir pris 5 bains par jour. D'accord? Le jour d'y manger 5 fruits et légumes. Nous, on se purifie 5 fois par jour. C'est encore mieux, on se purifie l'intérieur. Elle dit pareil pour un musulman qui a accompli ses 5 prières. Mais même si entre les prières, il a eu des erreurs, il y a eu des péchés qui ont été accomplis, mais à la fin de la journée, bismillah, par le biais de ces salats consécutifs, le musulman n'a pas de péché cumulé à la fin de la journée. Mes chers frères, ces 5 salats-là, c'est un cadeau de la part d'Allah. Quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il monte au ciel, il est reçu par Allah pour le Isra ou le Mi'raj. Quand il est reçu par Allah pour le Mi'raj, après des moments extrêmement difficiles, le Prophète a eu des moments, avait eu des difficultés avec le peuple de Taif, on connaît l'histoire. Il a eu beaucoup de difficultés à la mort de Khadija radiallahu anha et son oncle, celui qui veillait sur lui, ce qu'on appelait l'année de la tristesse, Am al-Huzn. Après ces épreuves difficiles, Allah Ta'ala va le récompenser, Allah Ta'ala va le réconforter, on pourrait dire, en l'invitant auprès de lui, par le biais du voyage nocturne. Et lorsqu'Allah Ta'ala accueille la créature qu'il aime le plus et qu'Allah Ta'ala le rencontre, Allah Ta'ala va lui donner un cadeau. Pensez-vous qu'Allah Ta'ala va donner un cadeau sans valeur? Non! Allah va lui donner la meilleure des choses. Allah Ta'ala invite son prophète auprès de son arche, de son trône, pour lui donner quelque chose. Mais ce qui va être donné à ce moment-là, c'est quelque chose d'exceptionnel qui a une valeur énorme. Et c'est là qu'on comprend l'impact de ces 5 prières. Au-delà des sawabs, au-delà des récompenses, au-delà des promesses de bénédiction que le musulman il a pour l'accomplissement des prières, il y a également le fait que ces salats vont nous laver de nos péchés. Et ce musulman qui accomplit ces 5 salats régulièrement, Inch'Allah, à la fin de la journée, si on fait un bilan comptable, Inch'Allah, il n'y a plus de péché dans son livret d'action parce que les péchés ont été lavés à grande eau. On ne dit pas avec le karcher parce que ça nous rappelle de mauvais souvenirs. Les péchés sont effacés à grande eau par l'accomplissement des 5 salats. Mis à part les kabaïr, bien sûr, les péchés majeurs, ça, il y a une règle spéciale pour se faire pardonner. Ah. Donc, pour revenir à ces anges, c'était plutôt « In kullu nafsin lamma alayha hafir » et ce verset est en rapport avec « Wa inna alaykum la hafidhin kiraman katibina ya'lamuna ma taf'al » ah. Et les ulama, rahimahoullah, ils expliquent également que les anges sont capables également de savoir quel est le niya, l'intention d'une personne. Parce que le hadith expliquait que lorsqu'un musulman a l'intention d'accomplir une bonne action, même s'il ne le... À partir du moment où j'ai le niya d'accomplir l'action, Allah Ta'ala inscrit déjà la récompense de cette action. Même si je ne l'ai pas encore fait, je vais plutôt dire, avant même de le faire. Et si ce musulman l'accomplit, Allah Ta'ala ordonne aux anges d'en inscrire 10 fois la valeur de cette action. Quand Allah Ta'ala dit le Coran, le Prophète dit Al-Hasanatu bi'ashri amthaliha. Bi'ashri amthaliha. Et Allah Ta'ala dit le Coran Man ja'a bil-hasanati falahu ashru amthaliha. Le hadith et le Coran se rejoignent qu'une action d'un musulman, de cette ummah bien sûr, est multipliée par 10. Alors que lorsque je fais uniquement l'intention d'accomplir l'action, Allah Ta'ala ordonne aux anges d'inscrire déjà les récompenses. Mais l'intention, c'est où ça? Est-ce que c'est palpable? On peut le voir? Non, c'est dans le cœur. Il y a que les anges savent également ce qui se passe, quelles sont les intentions qui sont encore cachées dans le cœur. Si une personne passe près de la masjid, il voit qu'il y a un majlis, hein, il dit « Ah, il y a tafsir vendredi soir, je vais m'asseoir ». Et avant de s'asseoir, hein, son téléphone sonne, madame dit « Non, viens tout de suite, j'ai besoin de manger » ou alors « J'ai besoin de toi, je ne sais pas quoi ». La personne ne peut assister à cette assemblée, mais uniquement par le fait qu'elle avait l'intention d'y assister, Allah Ta'ala ordonne aux anges de lui accorder les récompenses de ce majlis. Et celui qui vient et qui s'assoit vraiment, Allah Ta'ala lui en accorde 10 fois au minimum la récompense de l'action. Et c'est ainsi pour n'importe quelle action, sauf pour les péchés. Pour les péchés, si une personne a l'intention d'accomplir un péché, tant que le péché n'est pas accompli, tant que le péché, l'action lui-même n'est pas accomplie, il n'y a rien d'inscrit sur le livret des comptes. Maintenant, les ulama expliquent qu'il y a un autre cas de figure. Si une personne a l'intention d'accomplir un péché et qu'il fait l'effort pour faire ce péché, mais qu'à la fin, il y a un obstacle extérieur, indépendant de sa volonté, qui fait qu'il ne peut pas faire le péché, certains ulama sont d'avis que le péché est réellement inscrit dans son livret de comptes. les hommes déjà donné, hein, samedi soir, un jeune homme, il a déjà fait sa coiffe. Comment appelle-t-on ça? Fashion, d'accord? Vous connaissez Fashion? Non. Inch'Allah, on ne connaîtra jamais. Il a des parfumés, bien préparés. Là, il va s'ingérer. Hein, il va en boîte, d'accord? Content, et ses amis, il va le retrouver. Le niyat est fait. L'intention, la mauvaise action, elle est faite, d'accord? Démarre sa voiture. Voiture en panne. Ah, et aussi pour comment il s'injurait, d'accord? La voiture en panne ne peut pas partir. Selon certains savants, le fait que ce soit un obstacle extérieur, s'il n'y avait pas ce hajiz, il n'y avait pas cet obstacle, il aurait fait le péché. Certains savants sont d'avis que le péché lui est accordé. Donc cela nous fait comprendre, pour revenir au verset, « Wa inna alayhi in kullu nafsin lamma alayha hafid » qu'Allah Ta'ala a décrété, et comme on a dit, que Allah il sait déjà les actions de l'homme, bonnes comme mauvaises. Allah n'a pas besoin de ce bilan comptable des anges. Mais c'est la sunnah d'Allah. Allah a créé la création de la sorte qu'il y ait des personnes qui exécutent des tâches qui sont connues par Allah, mais qu'il y ait des créatures qui s'occupent du fonctionnement de l'univers comme Allah Ta'ala l'a décrété. Et l'existence des anges, parce qu'il y a deux choses, il y a les anges et il y a les livrets de compte. Les anges écrivent dans le livret de compte. Ces deux choses-là, ces deux créatures seront un hujja, seront une preuve irréfutable pour chaque personne le jour de la résurrection. Parce que dans le Coran, Allah Ta'ala dit, surtout le verset, en général, c'est qu'on cherche, qu'on ne trouve pas, que le jour de Qiyama, chaque personne verra son livret de compte. Et sur cet hadith, il dit que lorsqu'un musulman meurt, son livret de compte est fermé. Il n'y a plus rien qui peut être inscrit dans son livret de compte. Et selon certaines sources, les livrets de compte restent sous le trône d'Allah Azzawajal. Et le jour de Qiyama, les livrets de compte, on appelle Tataadir al-Suhuf, les livrets de compte seront envolés et chacun récupérera son livret de compte. Certains, comme on le sait, dans la main droite et d'autres dans la main gauche, sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque chaque personne recevra son livret de compte, Allah dira Iqra kitab, kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. C'est toi qui es ton propre juge. Pour que ce soit une hujja, qu'à tel moment, telle date, telle heure, telle année, tu accomplis telle bonne action, tel péché, pour pas qu'une personne dise que non, c'est pas moi, j'ai pas fait exprès, ou je n'ai jamais fait ça, c'est quelqu'un d'autre. Non, tout a été inscrit, et Allah Ta'ala fera en sorte que le jour de Qiyama, chaque personne aura une mémoire qui lui permettra de recouvrir toute sa vie. On se souviendra de la moindre action, bonne comme mauvaise, qu'on a accomplie depuis que la personne était baligh jusqu'à son décès. Je pense qu'on va s'arrêter là, on a fait 30 minutes, Inch'Allah. On est à 32 minutes, parce que le verset qui vient après est assez long. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Et en parenthèse, les ulama, ils expliquent que ça, c'est une catégorie de créatures, une catégorie, pardon, de malaïka, qui est avec les êtres humains, qui inscrivent les actions. Après, il y a une autre catégorie de malaïka qui sont également présents auprès des êtres humains. C'est lorsqu'Allah Ta'ala dit au Coran, lahum mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Il y a des anges qui restent près des êtres humains, devant et derrière, et qui protègent les êtres humains par ordre d'Allah. C'est-à-dire qu'ils protègent ces personnes contre les choses qui ne lui sont pas destinées. Si Allah n'a pas destiné un mal pour une personne, le mal ne pourra jamais atteindre cette personne. Le ulama dit également, lorsqu'une personne était atteinte par un ibtila, problème de santé, ou un accident, ou même une atteinte comme de la sorcellerie ou autre chose, c'est bien parce qu'Allah Ta'ala l'a accepté. Et dans le conscience, ça sera la tête du Coran, « وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِمْ نَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ » Ils ne peuvent rien faire sans l'ordre d'Allah. Donc, quand une personne a été atteinte par un quelconque mal, c'est parce qu'Allah Ta'ala l'a bien voulu, c'est qu'Allah Ta'ala a décidé que ce mal touche cette personne. Ce n'est pas que j'ai été atteint par tel problème, j'ai eu telle maladie, mais Allah ne peut pas protéger à moi. Non, c'est que si une personne a été touchée par une difficulté, c'est la volonté d'Allah, et à travers la volonté d'Allah, il y a une sagesse, c'est une épreuve où la personne, et Allah Ta'ala attend que la personne réagisse d'une telle façon, atteigne un objectif précis par le biais de cette épreuve. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah. Donc on a vu, on a expliqué un petit peu la création du ciel, le izamat al-khalqillah, l'énormité de la création des cieux, la création également des étoiles, pourquoi Allah Ta'ala a créé les étoiles, et on a vu que il n'est pas d'âme qui n'ait sur elle un garde. On va terminer ça, Inch'Allah. Juste avant de terminer, en conclusion, c'est pas en conclusion, mais un hadith qu'on avait expliqué aujourd'hui, Sourate al-Jum'a, malheureusement, on n'a pas pu développer. Hein,
le souci, c'est qu'on manque toujours de temps. Il n'y a pas assez de temps. Le temps de parole n'est pas suffisant. Il y avait un hadith qui est magnifique, qui se trouve dans Sahih Bukhari, Kitab al-Manaqib, Kitab al-Raqa'iq,
dans lequel le prophète alayhi salatu wassalam explique qui sera le dernier homme à entrer au paradis. C'est un hadith qui est magnifique. En deux minutes, le prophète alayhi salam explique que le jour de Qiyama, vous savez que les gens seront ressuscités, que ce soit humains, malaïka, anges, djinns ou animaux. D'accord ? Les anges n'ont pas de hissab, bien sûr. Les animaux n'ont pas de hissab non plus. D'ailleurs, pourquoi les animaux n'iront ni en enfer ni en paradis ? S'il y a eu des injustices entre eux, hein, il y a leur hissab à eux, mais après ils sont réduits en poussière. D'accord ? Ils ne sont pas mukallaf. Et les anges ne sont pas mukallaf non plus. Maintenant, Allah Azzawajal ordonnera à chaque personne qui a adoré une divinité de suivre sa divinité. Ce qui fait qu'il restera les gens qui adoraient Allah. Que ce soit des musulmans de cette Ummah ou des Ahl Kitab, des chrétiens, des juifs qui adoraient Allah à l'époque de leur prophète, bien sûr. Lorsque le Taurat, le Injil a été révélé et qu'ils étaient eux-mêmes les compagnons du prophète, de leur prophète à leur époque, comme les Sahaba étaient les compagnons du prophète, jusqu'à ce que le nouveau prophète soit arrivé. Et ensuite, Allah Azzawajal va, et parmi ces gens-là, il y aura les bons musulmans, les mu'mines, les muttaqis, mais également les pécheurs, même les munafiques. Et Allah Ta'ala distinguera ces gens par le bidu sirat, le pont qui traverse le jahannam. Et le hadith explique que le musulman ira à la vitesse de l'éclair, d'autres iront comme un cheval qui galope, etc., etc., en fonction du iman. Dans le hadith, il dit qu'on dira aux gens, allez-y, traversez le pont en fonction de la lumière que vous avez. Et chacun traversera. Il dit que le pécheur, hein, il va ramper, il va tituber, il va tomber, il va s'agripper, etc., etc. Il sera brûlé par les flammes de l'enfer jusqu'à, peut-être arriver jusqu'au bout de l'Yusra. Et il dit également, sur les hadiths, que malheureusement, il y aura une quantité, Allah seul sait, une quantité de mu'mines, de musulmans, qui entreront en enfer à cause de leur péché. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal aura terminé avec Hisab al-Khalq, avec le jugement de toutes les créatures, là, Allah Azza wa Jal acceptera le shafa'a, l'intercession pour les mouahidines qui sont de le jahannam, pour ceux qui ont lu la ilaha illallah, comme vous et moi. Et là, Allah Azza wa Jal ordonnera aux anges de retirer de l'enfer les gens qui ont la ilaha illallah. Et la suite du hadith, c'est comment est-ce que les anges reconnaîtront ceux qui ont la ilaha illallah de leur cœur, bi athar as-sujud, par la prosternation et la lumière qu'il y a à travers les ablutions. Parce qu'Allah Ta'ala a interdit au feu de l'enfer de brûler les parties, hein, la lumière qui est sur le visage du mu'min, qui est sur le mu'min qui accomplit le tahara, qui se purifie, donc comprenez par purifier, pour l'accomplissement des prières. Et pour revenir à ce qu'on voulait dire, le dernier homme, parce que ça me dit que je connais exactement la dernière personne à quitter l'enfer, c'est une personne qui demandera, oh Allah, je suis éprouvé par ce châtiment, oh Allah, Allahumma srif wajhi anin nar. Ne dites pas amin, hein, ce ne sera pas pour nous, Inch'Allah, ne dites pas amin. Il dira, oh Allah, éloignez mon visage du feu de l'enfer. Ce sera le plus malheureux, ça, parmi les musulmans. Le dernier à quitter l'enfer, nasallallahu alayhi wa sallam. Il demande, oh Allah, éloigne mon visage de l'enfer. Et Allah Ta'ala fera la promesse à cette personne que si j'accepte ta demande, tu me promets que tu ne demanderas rien d'autre. Elle dit, oh Allah, promesse, éloigne mon visage de l'enfer, détourne-moi de l'enfer, et ce sera suffisant, je ne te demanderai rien de plus. Et Allah Ta'ala exaucera sa demande. Mais Allah Ta'ala, il est hakim, il sait qu'est-ce qu'il y a dans le cœur de cet homme-là. Allah Ta'ala exaucera sa demande. Et un instant après, cette personne dit, oh Allah, Allahumma qarribni ila al-jannah. Oh Allah, rapproche-moi de la porte du Jannah. Et Allah Ta'ala dit, oh Ibn Adam, tu m'as promis de ne plus rien demander. Tu manques à ta promesse. Et dit, oh Allah, s'il vous plaît, que je sois proche de la porte du Jannah. Et Allah Ta'ala exaucera sa demande. Allah Ta'ala rapprochera ce musulman, ce mu'min, de la porte du paradis. Et le hadith, subhanallah, je n'ai pas le texte, j'ai oublié d'avoir dit, je voulais lire le hadith, j'ai oublié d'avoir dit, qadarallah. Je voulais dire que le hadith, il est long. Et à un moment donné, il dit que lorsque la personne s'approchera du paradis, sakat, masha Allahu an yaskut. Cette personne restera silencieuse. Parce que dans le hadith, il écrit que la personne, quand elle verra la beauté, il sentira le parfum du paradis, cette personne ne trouvera plus quoi dire. Elle sera donc subjuguée par la beauté du paradis. Et là, la personne va craquer, va dire, oh Allah, Allah m'a créé le jannah. Oh Allah, comment rentrer dans le paradis? Tu n'es arrivé jusqu'à là. D'accord? Et étape par étape, et Allah, il savait que la personne, en finalité, demanderait à accéder au paradis. Et Allah, Allah dira, oh, venez, Adam, tu fais la promesse de ne plus rien demander. Après, elle va dire, oh Allah, Allahumma la taj'alni ashqa khalqik, en se disant, oh Allah, ne fais pas de moi ta créature la plus malheureuse. Et Allah Ta'ala, il a dit, regardez comment Allah Ta'ala, il est rafour au rahim. Il dit que la dernière personne, cette dernière personne qui quittera l'enfer, c'est quelqu'un qui n'a rien fait, n'a pas fait de bonne action. Dans d'autres hadiths, il décrit qu'on demandera à cette personne, le dernier, est-ce que tu as fait de bonnes actions dans ta vie? Il dit, j'ai rien fait, sauf que quand je faisais mon commerce, ben, je faisais preuve de gentillesse envers les gens. Mais il y avait la ilaha illallah dans son cœur, bien sûr. D'accord? Et donc, quelqu'un qui n'a peut-être jamais fait de bonne action, malgré ça, Allah Ta'ala, il est tellement rahman, rahim, Allah est tellement généreux, tellement miséricordieux, qu'Allah Ta'ala acceptera et fera entrer cette personne dans le paradis. Et là, le hadith est long, hein, mais permettez-moi encore une seconde. Cette personne, Allah Ta'ala dira à cette personne, tamanna, demande ce que tu veux. Et la personne demandera. Allah Ta'ala dit, demande encore. Il demandera, dit, tu as tout ce que tu le souhaites. Et deux fois plus que ce que tu le souhaites. Il y en a des hadiths qui expliquent cette étape encore plus magnifique. Allah Ta'ala dira à la personne, maintenant, ben vas-y, entre. Et la personne va entrer dans le paradis et la personne a l'impression que le paradis est déjà plein. Pas plein, qu'il n'y a plus de place, c'est que chacun a ses compartiments, chacun a sa place. Il n'y a plus de place pour moi. Tout le monde est entré, il ne reste qu'une personne. Il va dire, oh Allah, il n'y a plus de place pour moi dans le paradis. Allah dit, vas-y. La personne ira et retournera trois fois. Et au bout de la troisième fois, Allah Ta'ala lui dira que, entre dans le paradis, je t'accorde l'équivalent de 10 fois ce dunya. Et la personne dira, ya Rabb, le sens du hadith, le terme, tastahzi'u minni wa anta khaliq wa anta al-khaliq, tu te moques, c'est-à-dire que tu ris de moi, oh Allah, comme si que la personne croit qu'Allah Ta'ala est en train de se moquer de lui, alors que tu es mon créateur. Et Allah Ta'ala, subhanallah, ça c'est propre Allah, Allah Ta'ala va sourire, va rire, et ça c'est propre Allah, kama yaliqu bihi jalla jalalu, et Allah Ta'ala fera entrer de cette personne dans le paradis, et lui accordera l'équivalent de 10 fois ce dunya, en termes de grandeur, en termes de beauté, en termes de richesse, en termes de superficie. Les ulama ils expliquent comment Allah Ta'ala est rafour rahim, comment Allah Ta'ala est prêt à pardonner du moment que quelqu'un a la ilaha illallah dans son cœur, même s'il y aura des étapes difficiles dans l'au-delà. Il ne faut pas souhaiter à cette personne, parce que la personne, lorsqu'elle sortira de l'enfer, elle sera carbonisée, grillée. Et là, on le mettra dans un des fleuves du paradis, et la personne retrouvera sa beauté et retrouvera la vie. Donc ça c'est le pied des mu'minines, ça, le pied des musulmans. Mais en finalité, Allah Ta'ala aime tellement ceux qui disent la ilaha illallah qu'Allah Ta'ala lui fera accéder au paradis. Qu'Allah nous accepte, mes chers frères, nous donne la possibilité de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique, de propager à nos mères et à nos sœurs. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, alhamdulillah. Jazakallah.